VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir le monde aujourd'hui, Eric Manilakidza avec vous depuis le studio 9 de la Voix de l'Amérique à Washington. Au sommaire de cette édition du jeudi 21 septembre 2023 à New York, le Guinéen Doumbouya dénonce les coups d'État constitutionnels, tandis que le centrafricain Touadéra appelle l'ONU à impliquer les pays africains dans la recherche des solutions globales aux crises migratoires. Nous allons retrouver notre envoyé spécial Alexandrine Rodogno pour le compte rendu de la journée. Les militaires au pouvoir au Niger ont créé une commission de lutte contre la corruption et arrêtent plusieurs personnalités du régime déchu. 16 civils ont été tués dans deux attaques de djihadistes présumés mardi dans le centre-est et l'ouest du Burkina Faso. Le président ukrainien est à Washington. Il avertit que sans la poursuite de l'aide américaine, son pays pourrait perdre la guerre. N'en manque pas notre page sport ainsi que la Minute Écho, mais pour l'instant le journal. Troisième jour du débat général à la 78e Assemblée générale des Nations unies. Plusieurs dirigeants africains se sont succédés à la tribune de l'ONU ce matin avec des déclarations fortes. On retrouve à New York notre envoyée spéciale Alexandrine Rolonio. Alexandrine, bonsoir.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous. C'est en effet une journée chargée en déclarations percutantes ici à New York pour le troisième jour du débat général. L'intervention du président guinéen Mamadi Doumbouya fait certainement partie des plus retentissantes. Une phrase à retenir, la vieille Afrique, c'est fini, a déclaré le dirigeant guinéen qui est lui-même issu d'un coup d'État. Il parlait d'une manière générale de la résurgence des coups d'État sur le continent et a demandé à la communauté internationale de s'attaquer aux causes plutôt que de condamner. Je vous propose de l'écouter.
Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, mesdames et messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir. Voilà les putschistes les plus nombreux.
Le chef de la junte à Conakry, Mamadi Doumbouya, Alexandrine. Avant le colonel Doumbouya, c'est le président centrafricain qui s'est aussi exprimé ce matin. Il est revenu sur la crise migratoire, n'est-ce pas?
Il fait partie certainement des dirigeants du continent qui veulent changer le narratif. L'afflux de migrants africains vers l'Europe est un résultat des pillages et de l'impérialisme occidental en Afrique. C'est ce qu'a affirmé le président centrafricain sorti en carence Touadéra. Il semblait répondre aux propos de la première ministre italienne Giorgia Meloni, qui hier à la tribune des Nations Unies a parlé de l'afflux des migrants africains à Lampedusa et a affirmé que l'Afrique n'est pas un continent pauvre, mais que le continent a des ressources stratégiques pour pouvoir garder ses touches sur le continent. Je vous propose un extrait du discours du président centrafricain.
Cette escalade de la crise des migrants est l'une des conséquences effroyables des pillages des ressources naturelles des pays rendus pauvres par l'esclavage, la colonisation et l'impérialisme occidental, le terrorisme et les conflits armés internes, souvent ouverts sur fond de visées hégémoniques, des tensions géopolitiques et géostratégiques entre les grandes puissances mondiales.
Alexandrine, d'autres chefs d'État se sont exprimés et le débat n'est pas encore fini ce soir.
En effet, il y a eu d'autres dirigeants africains qui se sont prononcés ce matin. Je peux citer Salva Kiir du Soudan du Sud ou encore le Burundais Ndaye Chimier. Et d'autres dirigeants africains vont se relayer tout à l'heure à la tribune des Nations Unies.
Alexandrine Rolonio, notre envoyée spéciale à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Le régime militaire issu d'un coup d'État au Niger a annoncé mercredi soir la création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale, en abrégé la COLDEF. Aussi, la junte au pouvoir a procédé à l'arrestation de plusieurs dignitaires du régime déchu, dont le fils de l'ancien président Mahamadou Issoufou. Les précisions de Abdelrazak Idrissa, notre correspondant à Niamey.
L'information a été confirmée par plusieurs sources proches du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ainsi que des membres du comité exécutif national du PNDS-Tareya, le parti du président de Chu Mohamed Bazoum. Le président du parti, Fouma Koigado, est déposé à la prison civile de Niamey. Amadou Adamou Souley, ancien ministre de l'Intérieur au camp pénal de Kolo, Abba Issoufou, fils de l'ancien président Issoufou Mahamadou, ministre du pétrole jusqu'au 26 juillet dernier, mis en détention à la prison de Filengué. Ahmed Joudoud, ancien ministre des Finances, et Kala Moutari, député et ancien ministre de la Défense, sont quant à eux à la prison civile de Saï. Il n'y a pas encore d'explication sur ces incarcérations qui interviennent au lendemain de l'annonce de la signature par le président du CNSP, chef de l'État, d'une ordonnance portant création d'une commission de lutte contre la délinquance économique, financière et fiscale. Une commission dont la mission principale est le recouvrement de tous les biens publics illégalement acquis et ou détournés. Abdelrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le président sénégalais Macky Sall a jugé ce jeudi qu'il est encore possible d'avancer vers une solution diplomatique au Niger, près de deux mois après un coup d'État. J'ai espoir que la raison va finir par prévaloir, qu'il est encore possible d'avancer raisonnablement vers une solution. Il a exhorté les militaires nigériens à ne pas pousser la CDAO à l'ultime décision qui serait une intervention militaire, a déclaré le président Sall dans un entretien avec des médias français. Il a assuré, en parlant de Mohamed Bazoum, qu'on ne pouvait laisser un président élu être fait prisonnier chez lui. Au Burkina Faso, 16 civils, dont 4 supplétifs de l'armée, ont été tués dans 2 attaques de djihadistes présumés mardi dans le centre-est et l'ouest du pays. Les détails avec Nani Tetalani.
Mardi, des terroristes ont attaqué un groupe de civils à Koulposongo, dans le centre-est, faisant 12 morts et 2 blessés, a déclaré un habitant de la région. Une attaque et un bilan confirmé par une source sécuritaire. Le même jour, une attaque a fait 4 morts à Sirasso, dans l'ouest, tous membres des VDP, des supplétifs civils de l'armée, a précisé une source sécuritaire. Une douzaine de terroristes ont également été tués dans les opérations de riposte de l'armée, a ajouté la même source sécuritaire. Mercredi, le gouvernement a annoncé le retour des milliers de déplacés internes dans leurs localités, dans plusieurs régions, en vantant une reconquête de localités jadis occupées par des groupes djihadistes. Il a aussi promis le retour de l'administration et le ravitaillement systématique des localités où sont retournés les déplacés pour accroître les retours.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti jeudi face aux sceptiques républicains du Congrès américain que Kiev perdrait sa guerre contre l'invasion russe si le flux de milliards de dollars d'aide était interrompu. John Lindon.
Dans son habituelle tenue kaki, M. Zelensky était arrivé dans la matinée au Congrès américain où les élus débattent d'une possible nouvelle aide militaire et humanitaire pour son pays. Le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, a déclaré que M. Zelensky lui avait dit que si nous n'obtenons pas l'aide, nous perdrons la guerre. Les États-Unis ont été le fer de lance du soutien à l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Le Congrès a approuvé plus de 100 milliards de dollars d'aide, dont 43 milliards de dollars d'armement. L'entrevue la plus attendue et plus difficile sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, qui veut des comptes à rendre sur l'argent dépensé par les États-Unis. Cet aspect financier se complique encore avec le risque d'une paralysie budgétaire si les parlementaires américains n'arrivent pas à s'entendre avant le 1er octobre sur une loi des finances. Les discussions butent en partie sur le budget à consacrer à l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine.
Au deuxième jour de sa visite d'État en France, le roi Charles III a plaidé ce jeudi pour une nouvelle entente avec Paris sur le climat lors d'un discours ovationné devant les parlementaires français avant de se rendre sur le chantier de Notre-Dame. Vous suivez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Nathalie Barge.
Le premier ministre ivoirien Patrick Atchi et son homologue congolais Jean-Michel Samalukonde ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération économique entre leurs pays hier à Abidjan. La délégation congolaise est composée de plusieurs ministres et représentants de l'Agence nationale pour la promotion des investissements de la République démocratique du Congo. L'Office togolais des recettes a annoncé la réduction de 30% des frais de dédouanement des véhicules de plus de 5 ans jusqu'au 20 décembre. Cet abattement, qui s'opère depuis quelques années, était monté jusqu'à 40% en 2021 pour soutenir les contribuables. La mesure vise à décongestionner les parcs automobiles pour inciter aux nouvelles commandes de fin d'année. L'Algerian Union Bank a été inaugurée mercredi à Nouakchott par les ministres des Finances algériens et mauritaniens. Une foire permanente de produits algériens a également été ouverte pour augmenter les échanges et les investissements entre les deux pays. L'Algérie compte marquer sa présence en Mauritanie pour les premières exportations de gaz du projet Grand Tortue AMIEM l'an prochain.
Et sans transition, nous passons à votre page d'espoir avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Le portier camerounais André Onana s'est exprimé après la défaite de Manchester United contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. C'était hier, mercredi.
Oui, bousculé pendant 20 minutes par Manchester United, le Bayern Munich est parvenu à s'imposer 4-3 sur sa pelouse, poursuivant une impressionnante série de 35 rencontres sans défaite en phase de groupe de la Ligue des Champions. À l'Allianz Arena, en l'espace de 4 minutes, le Bayern a plié la rencontre bénéficiant d'une énorme erreur de main du gardien de United, André Onana, arrivé cet été en Angleterre en provenance de l'Inter Milan. Le portier camerounais reconnaît des débuts difficiles avec Man U.
Remplacer David De Gea n'est pas chose facile. J'essaye de faire de mon mieux, bien sûr. Ce début de saison n'est pas ce qu'on veut, mais des jours meilleurs viendront, la situation va se retourner et je suis très confiant. Je sais que tout ira bien.
I'm very passionate player.
Je suis un joueur très passionné et j'exige beaucoup de mes joueurs et de mes défenseurs. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes dans le même bateau.
We are in this together.
Faire partie de ce grand club est quelque chose de formidable. Manchester United est un club extraordinaire, c'est énorme. Je suis heureux d'être ici.
I'm happy to be here.
André Onana, portier camerounais de Manchester United.
Du rugby pour terminer Yacouba, la Namibie et son capitaine Johan de Essel veulent marquer l'histoire ce jeudi dans le mondial.
Devant le pays hôte, la France, les Namibiens sont à la recherche d'une première victoire historique au mondial de la balle ovale. Le sélectionneur Alistair Coetzee a opéré 9 changements dans son équipe de départ par rapport à celle lourdement battue 71-3 par la Nouvelle-Zélande pour affronter la France. Ce jeudi, à Marseille, je vous propose ce point sur cette équipe namibienne de rugby. Seul le demi d'ouverture, Cleven Lobster, l'ailier Jeswin Mouton, le pilier Johan Coetzee, les troisième ligne Johan Retief et Prince Gauseb et le capitaine Johan Deisel conservent leur place de titulaire. Deisel sera ce jeudi l'un des plus français des joueurs de son équipe car ayant passé ses 5 dernières saisons à Colomiers, club historique du sud-ouest de la France.
J'ai passé beaucoup de temps avec les joueurs français et leur rugby est fascinant.
Johan Deisel, qui fêtera ses 32 ans le 26 septembre, est arrivé en France en novembre 2018 en provenance d'Afrique du Sud où il évoluait avec les Sharks de Durban. Le colosse de 1m84 pour 93 kg se réjouit de retrouver le rugby pratiqué par le 15 de France.
Ils sont très forts dans les phases arrêtées, dans les mêlées, dans les mauls, sur les touches. Tout est très bon. De notre côté, nous devrons être bons dans certaines phases pour les contrer.
En cette participation à la Coupe du Monde, la Namibie n'a jamais remporté aucun match.
Et c'est tout pour les sports. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Mankakizado retourne avec vous pour les dossiers du jour. Au Nigeria, l'ultimatum de 21 jours donné par les syndicats aux autorités fédérales a pris fin à quelques heures du début d'une grève illimitée contre la hausse du coût de la vie. Il y a deux semaines, une grève d'avertissement de 2 jours avait paralysé les activités du secteur public. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Khalid Daouda est un vendeur de journaux dans le grand quartier de Garki, au centre-ville d'Abuja. Il s'est dit préoccupé par les conséquences éventuelles d'une grève illimitée de la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria.
Le gouvernement leur demande d'être patients. Ils doivent donc être patients et non les décider d'aller en grève. Parce que s'ils vont en grève, cela va nous affecter tous, mais surtout les populations.
Les syndicats du Nigeria veulent aller en grève contre la hausse des coûts de la vie aggravée par la suppression des subventions au carburant.
Les travailleurs de la fonction publique du Nigeria attendent désormais le mot d'ordre de la puissante centrale syndicale des travailleurs en pleine négociation avec les autorités fédérales.
Les négociations de dernière minute pour éviter la grève ont échoué jusqu'ici et les Nigériens suivent de près l'évolution de la situation.
Aller en grève pour résoudre les problèmes du pays, en particulier ceux du travail et des travailleurs, est important. Mais ce que je vois dans le cas nigérien, c'est que la grève du NLC ne peut pas résoudre le problème du Nigeria, parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Certaines personnes de la NLC sont corrompues, beaucoup d'entre elles sont compromises.
What are we gaining from all this?
Qu'est-ce que nous gagnons de tout cela? Cette grève en premier lieu. N'y a-t-il pas d'autres mesures que nous pouvons utiliser pour pousser notre gouvernement à travailler, sinon que les grèves de la NSI ou un autre organisme qui peut avoir d'autres moyens que nous pouvons utiliser pour amener notre gouvernement à nous écouter et à faire fonctionner les choses au Nigeria?
Depuis que la subvention carburant a été supprimée, le premier jour du mandat du président Bola Tinubu, les prix de l'essence ont presque triplé au Nigeria, provoquant la colère des syndicats et également une flambée des coûts de transport. L'augmentation des prix a également touché les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent de générateurs à essence pour obtenir de l'électricité en raison d'un approvisionnement intermittent du réseau. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Le Premier ministre du Gabon, Raymond Dong Sima, a pris la parole hier mercredi au Conseil de sécurité des Nations Unies, où son pays est membre non permanent jusqu'à fin 2023. Le coup d'État qui a déposé Ali Bongo a été dénoncé par la communauté internationale, mais est qualifié par Libreville d'opération de salubrité publique. John Lindon a obtenu un entretien exclusif avec Laurence Dong, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement.
Il faut comprendre que l'opération militaire qui a été menée au Gabon, notamment le 30 août dernier, est considérée par la population comme une œuvre de salubrité publique. C'est une opération de libération. D'ailleurs, nous parlons d'opération de libération, nous ne parlons pas de coup d'État. Parce que la situation du Gabon, pour les observateurs avisés, ils savaient très bien que le pays était au bord de l'implosion. Le pays va mal, il va très mal depuis plusieurs années. Vous savez que le Gabon a été dirigé par une seule et même famille pendant 56 ans, donc près de 60 ans, ce qui est énorme. Et que durant ces 60 années, le niveau de vie des populations gabonaises n'a jamais été en corrélation avec la richesse du pays. C'est-à-dire que nous avons un pays qui est immensément riche de par les matières premières qu'il possède. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a 70% des Gabonais qui vivent dans la pauvreté, dont 35% dans l'extrême pauvreté.
Justement, cette période de transition, elle est de 24 mois. Est-ce que vous pensez cela suffisant au vu de ce que vous venez de décrire? Et puis, est-ce que le général Brice Oligui Nguema sera candidat au terme des 24 mois?
Pour l'instant, nous disons que la transition pourrait aller sur 24 mois. Ce n'est pas une affirmation. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va décider de la durée de la transition? Le Premier ministre va avoir des consultations. Le président de la République a déjà commencé. Le général Oligui a reçu tout le monde, la classe politique, la société civile, et discute avec tout le monde. Le Premier ministre va faire pareil. Il va recevoir la classe politique, la société civile, les confessions religieuses, toutes les composantes de la société. Elles devront fournir chacune un document dans lequel il y aura un état de lieu du pays et les propositions. À partir de là, il y aura un document de synthèse. Sur la base de ce document de synthèse, une conférence nationale, une concertation nationale aux allures de conférence nationale va être convoquée. Les Gabonais vont discuter. Ils vont échanger sur la situation réelle de leur pays. Ils vont discuter sur où est-ce qu'ils veulent aller. Et à ce moment-là, on s'assiera pour voir combien de temps ça va nous prendre. Parce qu'il y en a qui veulent nous imposer une transition de 12 mois, d'autres disent 24 mois, d'autres disent 36 mois. Nous ne sommes pas pressés. L'histoire nous offre la possibilité, l'opportunité de remettre notre pays sur les bons rails. Et nous n'allons pas bâcler cette opportunité parce qu'il faut plaire à X ou à Y. C'est un problème gabono-gabonais.
On va terminer par là, par cette note d'espoir pour le Gabon et pour les Gabonais. Et est-ce que vous avez un dernier message à passer aux partenaires du Gabon, aux Gabonais de la diaspora et à vos voisins?
Le message que je veux passer, c'est celui du comité de la transition pour la restauration des institutions et plus particulièrement du président, le général de brigade Chris Kotter Oligui Nguema. C'est-à-dire que le contexte du Gabon est particulier. Ce qui s'est passé au Gabon, c'est un événement salvateur. Et ce dont le Gabon a besoin aujourd'hui, c'est d'être accompagné par tous ses partenaires.
Laurence Ndong, ministre des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, porte-parole du gouvernement gabonais.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en RDC, à Lubumbashi évidemment sur le 102.8 FM.
Le Centre des études africaines de l'Université Harvard, ici aux États-Unis, a organisé les 18 et 19 septembre à Boston un forum sur la République démocratique du Congo. Un forum de réflexion sur la situation et les opportunités en RDC auxquelles ont été conviés plusieurs officiels congolais. Après ce forum, Mouhamadou Oumfa a reçu dans nos studios, ici à Washington, le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi.
L'objectif, c'était de réfléchir sur le futur de la RDC à partir de l'ancrage justement de chaque secteur privé-public, le secteur scientifique et académique, et réfléchir sur les questions cruciales qui concernent la RDC, entendu que la RDC est connue pour être un espace de prédilection pour ce qui concerne les ressources naturelles, les ressources du sol, mais aussi démographiques. C'est une potentialité sans mesure pour ce qui concerne, entre autres, l'équilibre des biodiversités et des écosystèmes mondiaux. Si se posent des questions climatiques aujourd'hui, la RDC est supposée être un pays solution.
Le forum s'est donc achevé. Qu'est-ce qu'il faut en retenir, professeur? Vous repartez avec quoi pour la RDC, pour votre université?
À travers le partenariat que nous avons noué désormais avec Harvard et d'autres établissements d'ici, d'autres centres de recherche, ce partenariat indique que nous sommes en mesure de porter les modèles, les méthodes, les approches de recherche et de formation ici en vue de mieux servir notre société.
Vous avez de nombreux compatriotes qui vivent ici aux États-Unis et ailleurs dans la diaspora, qui étudient, qui enseignent aussi. Qu'est-ce que ces compatriotes de la diaspora, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aux universités congolaises, et notamment l'université de Lubumbashi?
Oui, nous savons que tous les peuples et gens se sont développés parce que, entre autres, ils avaient investi dans la ressource humaine de qualité. La société en avait profité. Ainsi, ceux qui sont venus ici pour enseigner, les étudiants qui sont venus ici pour se former, les lumières qui sont venus chercher ici sont indispensables pour nos universités. Nous pouvons demander à l'élite qui se trouve ici d'intensifier le partenariat à partir des rencontres avec des universités et d'autres partenaires pour qu'à partir de là, justement, nous puissions aussi avoir plus d'ouverture et plus de perspectives de recherche et de formation.
L'université de Lubumbashi, votre université, est située dans un pays, la RDC, une partie du pays qui est riche en ressources naturelles. Que fait votre université pour préparer les jeunes Congolais, la jeunesse, à gérer et à développer le potentiel, notamment minier de ce pays, de cette partie du pays?
Nous insistons sur la formation de qualité, justement, dans les filières qui ont trait aux ressources naturelles, le sol et le sous-sol, flore et faune. Nous avons des facultés comme Polytechnique. L'Université de Lubumbashi est chargée d'installer le centre d'excellence pour la fabrication des batteries électriques. Et comme tel, nous participons aux grandes conversations qui concernent justement la transition énergétique dans le monde.
C'était le professeur Kishiba Fitula Gilbert, recteur de l'université de Lubumbashi.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Quatre mémoriaux commémorant le génocide des Tutsis au Rwanda durant une centaine de jours entre avril et juillet 1994 ont intégré mercredi le patrimoine mondial de l'UNESCO. Il s'agit des sites de Nyamata, Murambi, Gisozi et Wisesero, a indiqué l'organisation onusienne. Pour comprendre les implications de cette reconnaissance pour la préservation de la mémoire du génocide, nous avons joint à Addis Abeba Jean-Pierre Karegeye, professeur de littérature et auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide.
C'est une très bonne nouvelle, pas seulement pour les rescapés du génocide contre les Tutsis et qui a eu au Rwanda en 1994, mais je crois que c'est quelque chose qui nous remet ou qui nous permet une sorte de montée en humanité et pour chaque individu, pour chaque personne. Et ici, ce qui me vient en tête, c'est d'abord les déclarations de Henri Lopez, l'écrivain du Congo Brazza, et qui avait déclaré en 1994, voyant ce qui s'est passé au Rwanda, donc pendant le génocide, et qu'on lui demandait son avis et il avait répondu « J'ai simplement honte d'être humain ». Et donc je crois que le grand événement, c'est cette reconnaissance, c'est surtout une façon pour moi de dire ce qui s'est passé au Rwanda nous concerne tous. Concerne tous les humains. Et je crois, pour moi, c'est ça le sens, surtout d'intégrer les quatre mémoriaux du génocide des Tutsis et parmi les patrimoines mondiaux de l'UNESCO.
Pouvez-vous expliquer comment les quatre mémoriaux contribuent à la préservation de l'histoire et à la commémoration des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda?
Oui, d'abord au niveau de la commémoration, bien sûr, parce que il ne s'agit pas simplement, je veux dire, commémorer ce qui s'est passé uniquement au Rwanda comme espace physique, mais là, et de façon virtuelle, c'est-à-dire ce qui s'est passé au Rwanda, on se rappelle de ça dans n'importe quelle place dans le monde. Donc, de façon, et c'est ça le sens de patrimoine mondial, c'est-à-dire virtuellement, n'importe où, on vivra ce moment comme si ça s'était passé dans chacun de nous, ça s'était passé chez nous. Donc là, ça c'est un pour ce qui est mémoire. Mais aussi très très important, et c'est lié aussi à l'éducation, mais très important parce que il y a de plus en plus le négationnisme, donc des gens qui nient ce qui s'est passé en 1994, même dans la région autour du Rwanda. Et donc avoir un tel événement, je crois que, et reconnaître, disons, considérer les quatre mémoriaux comme patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est très important aussi pour lutter contre le négationnisme qui se trouve déjà dans la région des Grands Lacs. C'est très important au moment où il y a la persécution, par exemple, des Tutsis dans la République démocratique du Congo. Et évidemment, mémoire et éducation vont ensemble. Je pense que cette reconnaissance aussi donnera plus de visibilité à ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda. Il faut que, pour qu'on parle de plus jamais ça, il faut qu'on sache l'histoire, qu'on sache ce qui s'est passé au Rwanda.
Le chercheur Jean-Pierre Karegeye, professeur de littérature et auteur de plusieurs ouvrages sur le génocide. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manirakiza à ce micro, à la mise en onde, Georges et Léonard Sagnot. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez.